Nous voulons nous incliner dans la prière et demander à notre Père des cieux la surabondance de sa grâce. Qu'il nous est doux, ô notre Dieu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir t'appeler notre Père et de savoir que c'est réellement ce que tu es pour nous. Les oiseaux du ciel le savent, les lys des champs aussi, le monde animal, le monde végétal te connaît et s'attend à toi. Et nous, nous sommes si souvent portés à nous croire seuls, abandonnés. Oh, fais tomber les écailles de nos yeux et apprends-nous à connaître ton cœur paternel, ton cœur aussi qui est semblable à celui d'une mère, ton bras tout puissant sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu dis que tu es le père des orphelins, que tu es le défenseur, le juge de la veuve. Et nous nous conduisons si souvent comme des veufs et des veuves, comme si tu n'avais pas fait tes promesses pour les solitaires. Et puis, nous nous croyons si souvent dans le désert, alors que justement dans le désert, tu voudrais nous parler et parler à notre cœur, comme tu le dis de tes brebis. Voici moi, je la tirerai, je la mènerai au désert, et là je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée du trouble pour une porte d'espérance. Nous savons que tout débouche sur une porte d'espérance, qu'il n'y a pas pour nous vraiment d'impasse, qu'il n'y a pas pour nous de voie réellement fermée. Ô Seigneur, donne-nous de croire que tu marches devant nous, que tu es la porte, que tu es l'issue, que tu es la sortie, mais aussi l'entrée où nous pouvons trouver en toi une protection. Dieu notre Père, que ton esprit agisse au milieu de nous, qu'il captive nos pensées, qu'il nous enlève toute distraction et qu'il y ait un miracle ce matin. Le miracle de ta parole pénétrant dans un cœur peut-être resté indifférent, endurci, distrait, et que cette parole qui a la puissance de sauver nos âmes régénère une âme parmi nous, ou toutes celles qui pourraient ne pas l'être encore. Car tu connais nos cœurs, et tu nous aimes tels que nous sommes. Oui, que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc, mais qu'elle soit un baume que toi-même tu mettras sur la plaie secrète de notre cœur sans rouvrir les cicatrices. Il n'y a que toi qui puisses faire cela. Garde-moi, Seigneur, dans ta main pour que je disparaisse et que ce soit seulement toi qui agisse. Oins nos lèvres. Donne cette grâce pour parler. Donne aussi la grâce pour recevoir. Et éclaire notre intelligence, touche non seulement notre conscience pour que nous nous sentions concernés, mais touche aussi nos cœurs pour que nous éprouvions que nous sommes aimés. Et que même si nous existions seuls sur la terre, pour un seul d'entre nous, tu aurais donné ton Fils unique. Que ta grâce soit avec nous, nous précéder, nous suivre, et que nous puissions ce matin voir ta gloire et comprendre que ta parole ne nous a pas été donnée par des mots seulement, mais avec puissance. Donne-nous la démonstration de l'œuvre de ton esprit pour ta seule gloire. Amen. Vous êtes bien installés sous ce grand parapluie. Alors voilà, nous sommes déjà arrivés à notre avant-dernière rencontre du matin sur ce thème, les œuvres de la foi, en ce jeudi 9 juillet 1987, et c'est le chapitre 4 de l'épître de Jacques que nous allons considérer, y recherchant des instructions qui puissent nous être utiles, acceptant aussi les corrections que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il est un Père qui ne nous traite pas comme des bâtards, mais comme des fils, et un Père qui est vraiment Père pour son Fils, nous l'avons vu, il sait le discipliner, le corriger, non pas parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il l'aime tellement qu'il veut que son enfant marche dans les voies du Seigneur. Et un jour, vous aurez la joie d'entendre votre fils vous dire « Merci papa de ne pas m'avoir laissé tout faire. Moi je n'étais qu'un gamin, mais toi tu étais mon père. Tu savais des choses que moi je ne savais pas. Et je te remercie de m'avoir assez aimé pour avoir osé me reprendre. » Tandis que vous pouvez entendre des enfants qui viennent dire à leur père « Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Tu étais mon père, moi je n'étais qu'un gosse. Mais tu m'as jamais rien dit, tu m'as pas mis en garde. Tu m'aimais, c'était pas m'aimer. Où est-ce que j'en suis maintenant? Dieu t'avait donné, tu parles de Dieu, mais t'avais donné une direction pour moi. Tu n'as pas fait. Puis maintenant, ben c'est trop tard. C'est terrible ce que l'on peut entendre. J'ai 5 enfants. J'ai dû agir avec sévérité. Pour certains, je n'ai pas été compris toujours. Et je me souviens toujours que ma fille aînée qui dirige l'œuvre de l'eau vive avec un de mes gendres, Brian Tatford, m'a dit un jour, « Papa, si tu n'avais pas fait cela avec moi, je serais une fille perdue. » Vous savez, ça vous fait frissonner. Et quand je l'ai fait sortir de ses études, de cette école, il y avait des professeurs qui tournaient autour d'elle, parce qu'elle était belle, et qui lui faisait lire tous les mauvais livres de Jean-Paul Sartre et compagnie, et que j'ai compris que je devais intervenir et la sortir de là, j'ai eu comme une vision, j'étais en prière, et il me semblait que j'avais un petit enfant qui était dans la cuisine, et que le poêle électrique était allumé, et que cet enfant allait mettre les mains sur les plaques, hein, il allait le brûler. Puis moi, dans ma chambre, je disais, « Seigneur, ne permets pas que mon enfant se brûle. Interviens pour qu'il ne se brûle pas. » Le Seigneur m'a secoué et m'a dit, « C'est pas comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la cuisine, puis on sort son enfant du danger. » Oui, mais comment aller trouver le directeur et lui dire tout cela? Eh bien, le Seigneur m'a montré que je devais le faire. C'est pas facile. Ça ne veut pas dire que les enfants acceptent ça très bien. Je ne voulais pas briser sa carrière, briser ses études. Et j'avais compris que je devais peut-être faire de plus grands sacrifices et la mettre dans une école chrétienne, et c'était dans un autre canton, mais où les professeurs étaient tous des sœurs qualifiées, mais qui aimait le Seigneur et qui avait une vocation pour chercher, tout en instruisant d'une façon complète, une jeune fille, eh bien, essayerait de les garder dans la voie du Seigneur. Et je faisais des sacrifices. Mais ma femme est allée la conduire. 2 jours après, j'ai appris qu'elle avait fait une chute et puis qu'elle était loin, dans la nature. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Appeler la police? Je ne savais pas où elle était. C'est pas drôle, parce qu'il y a une résistance chez nos enfants. Il y a une résistance, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois à quoi ça rime? Ce que tu as fait, ta décision, et puis voilà le doute qui vient dans votre cœur. Non, on s'agenouille, on prie. Je veux pas ameuter la police, non, c'est pas cela. Seigneur, tu es au-dessus de la police. Puis on prie. Puis le lendemain, eh bien, on reçoit un téléphone. On apprend qu'elle est dans une ville à Zurich. Elle s'est réfugiée forcément chez des amis. Et parce qu'elle... Et elle voulait pas de cette école, hein. Et elle regrettait ce qu'elle avait perdu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux pas la forcer. Alors elle revient. Mais elle pense qu'elle mourra. Eux, les enfants, on les aime, hein. Mais ils pensent qu'ils peuvent nous avoir. Est-ce que c'est l'enfant qui doit diriger les pères, les mères? J'ai dit, écoute, ma chérie, j'ai essayé de te donner le meilleur. Tu n'as pas voulu. Et bien maintenant, je t'ai trouvé une place de bonne à tout faire chez une femme qui a une jambe de bois. Et tu lui feras la cuisine. Et tu prendras soin d'elle. C'était dans un patelin, suisse allemand. Mais cette femme, c'était une chrétienne. Elle vivait seule. Elle lui a appris à faire un peu la cuisine, mais elle lui a demandé des choses très humiliantes. Elle avait un petit jardin avec des choux-fleurs. Puis pour bien faire pousser les choux-fleurs, il fallait que mon Hélène aille puiser dans la fosse à purin humain pour arroser les choux-fleurs. Parce que ça, ces paysans-là, c'était un engrais vraiment formidable. Alors ça faisait des dimanches choux-fleurs. Mais c'est pas très drôle pour une jeune fille qui est jolie et qui avait des prétendants, de faire ce boulot-là. Elle l'a fait quand même. Et puis, chaque samedi dans ce village, c'était 15 fièvres entre Neuchâtel et Berne, eh bien, chaque personne qui avait une maison au bord de la route devait balayer le chemin, hein, la route. C'est la route communale pourtant. Mais, voilà, on était les cantonniers, tous les samedis, en balayait, et elle devait faire ce travail-là. Je n'ai pas laissé plus longtemps qu'il le fallait, parce que le Seigneur nous dirige, il mesure les épreuves. 2 mois. Mais au bout de 2 mois, elle était désintoxiquée de tout cet intellectualisme qui la perdait avec ces lectures-là. Et puis, alors, j'ai pu la prendre. Le Seigneur avait permis que je déménage, je quittais le pays. Elle est venue à Nice et je l'ai envoyée en Angleterre pour 6 mois pour apprendre l'anglais, ce qui pourrait être très utile. Puis après ces 6 mois, elle est revenue, heureuse, pour commencer des études d'assistante sociale. Le Seigneur avait fait tout un travail dans son cœur. Mais elle a dit, en tout cas, tu sais, papa, je n'épouserai jamais un anglais. Puis voilà qu'elle épouse un anglais. À 29 ans. Mais c'est pour vous dire, mes enfants, mes amis, je suis plus devant les petits-enfants, mais je vous aime, hein. C'est pour vous dire, on a des luttes, hein, on doit prendre des décisions, et on n'est souvent pas compris, j'ai été compris par des frères chrétiens qui ont dit que j'étais trop dur, que j'étais, en fait, c'était abominable d'empêcher une fille de faire une grande carrière. Mais qu'est-ce qui compte? Moi, je me souvenais de mon père qui me disait, Gaston, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur et te trouver au ciel, que tu aies un grand nom sur la terre et que tu sois perdu. Et c'est vrai, vous savez ce que c'est un ramoneur, hein, peut-être qu'on ramone plus ici, mais il était tout noir, c'était le temps où il passait, n'est-ce pas? Bien oui, être ramoneur m'est sauvé plutôt que d'avoir un grand nom, une belle situation. Et puis, on a perdu nos enfants. Alors, je m'excuse, cette parenthèse est un peu personnelle, mais je voudrais bien me démystifier. Hein. Il y en a qui croient, oh, mais lui, il n'a pas d'épreuves, enfin, il est porté. Quelqu'un a dit que j'étais toujours porté par des anges. Bien sûr, je sais que les anges nous portent, n'est-ce pas? Mais c'est comme si on planait entre les nuages et qu'on n'avait pas les pieds sur la terre. J'ai les pieds sur la terre, j'ai la tête sur les épaules, mais j'essaye d'avoir mon cœur dans le ciel. Hein. C'est cela qu'il nous faut. Et alors, quand on cherche le Seigneur, eh bien, il s'approche de nous. Approchez-vous de lui, et lui
s'approchera de vous. Mais la vie, elle est concrète. Je ne voudrais pas que vous disiez, ben voilà, au camp de famille, on était plongé dans un bain de spiritualité, tout était facile. Et puis, oui, mais ça, c'était facile parce qu'on était des chrétiens ensemble. Mais maintenant qu'on va être dans la vie quotidienne, bien, le camp, le but du camp, c'est pour l'après-camp. Comprenez-vous? Moi, je crois davantage à cela. C'est pourquoi on ne fait pas de pression charnelle ici. Je n'ai pas besoin que vous preniez, vous, des décisions. Ce n'est pas ça qui compte pour moi. Mais c'est que vous ayez accepté avec douceur la parole qui vous est donnée. Et puis, que dans l'après-camp, vous puissiez dire vraiment, je me souviens de cela et cela m'aide. Le camp est fait pour l'après-camp. Pour que vous soyez aidé dans la vie quotidienne et que vous découvriez une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de faire, mais qui est scripturaire, qui est selon la parole que vous avez entendue. Nous avons des épreuves. Pour une fille, c'est comme ça. Pour un autre garçon, c'est autrement. Mais il faut savoir prendre des décisions. Et je l'ai raconté une fois, je n'ai pas allongé là-dessus, mais alors c'était mon garçon, et qui voulait absolument, pour passer son examen, aller en auto à son examen. C'était l'auto du refuge, une petite deux chevaux, il prétendait que des camarades allaient là-bas en deux chevaux, puis il avait tellement bien embobiné sa mère, ma femme, qui est auprès du Seigneur, que ma femme me disait, tu peux bien la lui laisser, hein, mon fils. Aller en auto au lycée, alors que les professeurs allaient en mobylette, vous savez ce que c'est une mobylette, hein? Les professeurs qui l'enseignaient, ils avaient seulement une mobylette, mais alors le fils du prédicateur du refuge, il vient avec l'auto. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'on veut l'auto? Parce qu'on peut avoir des petites copines après pour sortir, ou des copains. On connaît les enfants, puis on se connaît soi-même. Je dis jamais. Cet auto est pour le service du Seigneur, tu ne l'auras pas. Il était en rage. Parce que vous pouvez voir des enfants en rage. Parce qu'ils ont la tête dure aussi. Et il n'est pas voulu. Alors il est parti. Et puis à midi, il est revenu. Et puis il a de nouveau frimé sa mère. Et sa mère est venue. Il m'a dit, tu sais, ton petit quand même, ça lui ferait plaisir. Mais il n'en est pas question. Je n'ai pas changé. Alors, quand il a vu ça, il a dit, eh bien, je raterai mes examens. Je dis, imbécile. Parce que tu vas rater tes examens parce que je te laisse pas aller au camp. Tu devras faire une année de plus. Puis le soir à 6h, il téléphone. Papa, j'ai réussi. Alors, je dis à maman, tu sais, on pourrait peut-être acheter ceci et cela pour le souper, puisqu'il aime ça, Jean-Bernard. Alors, ma femme dit, oh, c'est pas nécessaire. Mais oui, j'ai dit, ça c'est nécessaire. Pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on fait quelque chose. Moi, j'oublie ce qu'il a fait. Le gars, il est revenu, et puis, il me dit, tu sais, papa, hein, t'es un homme que je respecte. Pourquoi? J'ai essayé de te faire céder. Mais si tu avais cédé, tu n'étais pas un homme. Ils sont rosses, hein, nos enfants. On les aime. Mais ils essayent de nous piéger. Ils essayent de nous avoir. Je m'excuse encore une fois, mais c'est en parenthèse. Mais des fois, ça peut vous aider. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est dans l'ignorance. On élève des enfants. Eh bien, par la grâce de Dieu, ce Jean-Bernard, il est devenu doyen de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Après avoir été directeur à Sherbrooke, après avoir été aussi à Ottawa, on l'a appelé pour être directeur à Lausanne. Et il voyage, et le Seigneur le bénit. Et il a plusieurs enfants, dont Karine, que certains ont connue ici au camp, puisque la petite est venue aider à la cuisine. C'est du pratique, mes enfants. Alors, nous faisons la lecture de ce chapitre. Et je dirai encore tout de suite, parce que j'aime bien que, allez-vous devant vos questions, vos réponses. On dit souvent, mais nous, dans notre milieu, ah oui, ici au camp, on est bien nourri, on a une nourriture solide. Mais dans notre milieu,
dans mon église, dans ma communauté, on n'est pas nourri. Et alors vous êtes déjà découragé. Eh bien, moi, je vais vous donner un conseil. Le Seigneur, si vous relisez le chapitre 4 de Jean, avec la femme samaritaine, que la femme samaritaine l'a quitté, et que les disciples sont venus pour lui donner à manger, il lui dit, Seigneur, mange. Puis, il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, ils se disent, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Et que répond-il? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, ça, c'est la nourriture. Faites la volonté de Dieu et vous ne vous plaindrez pas du manque de nourriture dans votre église. Mais en faisant la volonté de Dieu, vous serez vous-même nourri, vous ne dépendrez pas de la vie de vos frères, de la vie spirituelle de vos frères, ou du pasteur ou du prêtre, mais vous dépendrez du Seigneur et vous apporterez vraiment quelque chose aux âmes qui vous entourent. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nourrit. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui donne de la force, c'est ce qui vous rajeunit, c'est ce qui vous permet d'avancer jour après jour. Alors, dans notre chapitre 4 que nous allons lire, est-ce que vous l'avez lu? Oui, mais nous allons quand même le relire, et je vous le demande, puisque c'était notre dernière soirée où nous pouvons partager, eh bien, cherchez que l'Esprit vous dise un mot dans cette lecture. Les 12 premiers versets vont nous parler de l'amour du monde qui est au fond la source des dissensions et des disputes que nous connaissons si souvent dans nos foyers ou aussi dans nos communautés. Puis ensuite, la deuxième partie, nous verrons cette orgueilleuse témérité que bien souvent l'homme a, même le chrétien, et qui fait des projets et qui oublie de vivre dans la dépendance de Dieu. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, où il est dit, il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui s'accomplit. Et il nous faut toujours dire, si Dieu le veut. Et ne pas faire de grands projets, et en parler à tout le monde, et puis après, ça tombe à plat. Nous voulons vivre dans la dépendance quotidienne de Dieu et dans une dépendance pour les petites choses. Parce que si vous me dites que vous allez à Dieu seulement dans les grands moments de votre vie, vous n'y allez pas souvent. Parce que des grandes choses dans notre vie, vous croyez qu'on en a beaucoup? Non, il n'y en a pas tellement de grandes choses. Mais notre vie, elle est faite de petites choses. Et c'est justement ces petites choses, ce sont ces petites choses qui empoisonnent notre existence. Ces petits détails, eh bien, faites entrer le Seigneur dans ces petits détails. Ne pensez pas que vous dérangez le Seigneur. Le Seigneur ne demande qu'à vous aider. Alors, nous autres, nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes avec ce fameux verset qui n'est pas biblique. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? Et puis après, quand on a essayé tous les moyens, alors on se met à genoux peut-être, on commence à prier le Seigneur. Puis on a perdu un temps incroyable, alors que si nous étions allés tout de suite au Seigneur, nous aurions eu son aide efficace et sa réponse. Comme Jésus pouvait dire, je sais que tu m'entends toujours, je sais que tu m'exauces toujours. Et si c'est Jésus qui prie en vous, car c'est ça, prier au nom de Jésus, c'est laisser Jésus prier en vous, c'est Jésus qui présente la demande à son Père, puisqu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est par Jésus que nous sommes exaucés, eh bien, nous voyons des délivrances merveilleuses. Et alors, les délivrances apportent quel genre de prière dans notre cœur? La louange, la reconnaissance, les actions de grâce. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Passions ayant, comme nous l'avons vu hier soir, le sens de convoitise. Hein. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On a parlé de l'amitié de Dieu hier. Et cela nous l'a fait remarquer. Abraham était ami de Dieu. Mais si vous voulez être ami du monde, ben vous vous rendez ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Notez cela, hein, c'est une question. Vous pourriez voir toutes les questions de cet épître de Jacques. On pourrait tout reprendre parce que je ne fais qu'effleurer les choses. Mais croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand il est écrit cela? Et Jésus ne s'est pas servi d'un autre moyen que de l'Écriture pour triompher lui-même de la tentation. Puis nous, nous pensons que nous pouvons avoir d'autres moyens pour triompher. Jésus a répondu à Satan, il est écrit. Mais pour pouvoir dire il est écrit, il fallait connaître cette parole. Et il avait été enseigné par Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Il avait été enseigné dans cette parole, il connaissait le Deutéronome, et il cite à Satan qui lui dit, si tu es le fils de Dieu, change tes pierres en pain quand tu as faim. Il n'emploiera pas sa puissance pour se délivrer lui-même, il s'en remet à Dieu, il sait attendre, et finalement, qui est-ce qui vient le servir? Les anges le servent. Mais il a résisté à la tentation en disant, il est écrit. Alors, est-ce que vous pensez que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. L'Esprit, il est en vous. Mais Dieu chérit cet Esprit et il voudrait que vous puissiez ne jamais contrister cet Esprit parce que Dieu, qui est un Dieu bienheureux, voudrait que son Esprit en vous vous rende bienheureux. Vous devez être des bienheureux. Vous êtes pardonné de vos péchés. Si vous tombez, vous savez comment vous pouvez être relevé par lui, de sorte que nous n'avons pas d'excuse pour rester dans le péché. Nous pouvons encore tomber dans le péché si nous ne veillons pas, mais nous n'avons pas d'excuse pour rester par terre. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Parce que le bon berger passe, cherche sa brebis qui s'est égarée, il l'a sauvée, il l'aime, il ne veut pas la perdre, alors il la ramène au bercail, car le Seigneur nous chérit. J'aime beaucoup ce mot chérir. Il chérit avec jalousie l'Esprit qui est en vous. Et il est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente, et Dieu m'en est témoin, il sait que j'ai demandé pour vous, sachant combien vous aviez besoin d'une grâce, plus excellente que tout ce que vous pouvez imaginer. Croyez que Dieu, qui donne libéralement et sans faire de reproche, peut vous donner une plus grande grâce que celle même sur laquelle vous comptiez. C'est pourquoi, dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Qu'est-ce qu'il y aura? Il fuira loin de vous. Et c'est bien ce qui est arrivé au Seigneur, hein, le diable le laisse. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, on retrouve ces hommes irrésolus, ces cœurs partagés, comme on l'a vu au chapitre premier. Si on est irrésolu, si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, eh bien, nous ne pouvons pas penser recevoir quelque chose. Sentez votre misère, pas pour que nous fassions une dépression nerveuse, mais que nous soyons d'accord avec Dieu qui a dit que nous ne pouvions rien par nous-mêmes, que le mal est attaché à nous, et que hors du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Or, on prétend toujours que nous pouvons faire. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Parce que voyez-vous, moi j'ai toujours pensé, et j'en fais l'expérience, que quand on vous dit, oh, si vous acceptez Jésus-Christ, vous verrez, vous aurez de la joie, etc. Et alors on prêche cette parole, et puis tout ira bien, vous serez délivrés de tout, etc. Or, justement, quand la parole est prêchée avec sérieux, qu'est-ce qu'elle amène d'abord dans le cœur? Un malaise. Elle amène une conviction de péché. Et la repentance, est-ce que c'est un chant d'abord? On vous fait chanter des paroles que vous ne vivez pas, donc on vous fait mentir. Et le plus grand responsable, c'est celui qui vous fait chanter des choses que vous ne vivez pas. C'est pourquoi je suis contre le fait de faire chanter tout un public qu'on ne connaît pas. Qu'il y ait un cœur de croyant qui chante avec conviction pour faire entendre la parole. D'accord, je ne suis pas contre la musique, je ne suis pas contre les instruments, ce n'est pas cela. Mais obliger des gens que vous avez invités à chanter des paroles parce qu'ils ont l'air stupides, parce qu'ils ne chantent pas, eh bien, c'est les faire mentir, c'est leur rendre un mauvais service. Tandis que s'ils pouvaient vraiment écouter et regarder comment on chante les gens, mais si on fait chanter les gens comme ça, avec leur cantique, ils n'ont pas même pu apprendre par cœur un cantique, et ils sont collés à leur cantique pour chanter, eh bien, c'est juste alors, ça ne vaut pas la peine. Parce que j'aime bien aller au théâtre où j'entends quelqu'un qui chante comme ça, hein. Ça, ça vaut la peine. Les gens du monde, pour se montrer dans le monde, ils payent un prix. Nous, les chrétiens, c'est toujours assez bon pour le Seigneur. C'est faux ou c'est juste ce que je vous dis? Dites-moi que c'est faux. Mais vous voulez servir le Seigneur, on ne le sert pas n'importe comment. Il faut payer aussi un prix. Et si on veut se produire, eh bien, pour le Seigneur, c'est pas vous qui allez vous montrer. Mais vous allez regarder les gens, vous aurez une expression. Quelle expression est-ce qu'on a quand on est là comme des myopes sur notre cantique? Parce qu'on n'a pas pris la peine de l'apprendre par cœur. Et puis c'est la voix, c'est l'aide. Mais le chant peut être employé, mais on ne fait pas chanter des paroles à des gens qui n'ont pas encore réalisé certaines choses. Parce qu'on les habitue à des mots pieux, puis ça ne veut plus rien dire. Et c'est pourquoi je l'ai dit souvent, dans certaines de nos communautés, eh bien, on sacre davantage que dans les tavernes de Montréal. Pour quelle raison? Parce que dire des paroles qu'on ne vit pas, c'est blasphémer. Je sais très bien, je le dis souvent, un jour je serai fusillé, je sais. Mais ça fait rien, c'est dans le programme. Est-ce que vous serez dans le peloton? Parce que vous êtes témoin de ce que j'ai dit. Quand on a accusé Jésus devant le sacrificateur, et qu'on lui dit, tu entends ce qu'on dit de toi? Quelle est ta doctrine? Jésus dit, mais j'ai pas prêché en secret. Hein. Tout le monde sait ce que j'ai dit. Questionnez ceux qui m'ont entendu. Mais lui ne se défend pas. Ce n'est pas à me défendre. Jésus ne s'est pas défendu. Laissez-vous pénétrer par la parole. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez vos misères, soyez dans le deuil, dans les larmes, parce qu'il y a un moment, justement, où tout à coup je réalise. Mais moi, je faisais cela, moi, j'étais cela. Je me vois dans la parole et j'ai horreur de moi. Alors, je suis dans la douleur et dans les larmes. C'est ça, la repentance. Mais une douleur dont on n'a pas de regret. C'est pas de la rigolade de se convertir. Et vous comprenez bien pourquoi il est dit, sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, il ne disait pas des choses très agréables, il disait, vous êtes une race de Luther. Vous dites, non, pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Et qui vous a averti de fuir la colère à venir? Ah, mes amis, alors on commence à être attristé, mais de cette tristesse, on se dit, mais voilà, j'ai tant d'années, un homme m'a dit l'autre jour, j'ai vécu tant d'années loin du Seigneur, mais qu'est-ce que, j'ai perdu toute ma vie. Alors vous avez ce verset qui lui dit, Joël 2, 25, je te redonnerai les années perdues. Alors voilà qui se raccroche à ça. Ça peut encore commencer, oui. Tu peux toujours commencer avec Dieu. Et tout le reste est passé. Il a tout mis sous le sang et tu peux commencer avec lui. Et alors, c'est tonique. Et voilà une vie nouvelle qui commence. Alors il ne perd plus son temps parce qu'il sait maintenant compter ses jours. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions la sagesse. Alors on ne va plus perdre son temps. Mais on a senti sa misère. On a mené deuil et on a pleuré. Notre joie, qui était une joie purement mondaine, on s'exalte, même avec une certaine musique. Et voilà que, au contraire, il faut connaître cette tristesse. Vous me direz, vous nous enseignez les marches funèbres. Non, mais il faut savoir pleurer sur ses péchés. On a dit, une conversion, elle vaut ce qu'elle coûte. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrivera? Il vous élèvera. Ce n'est pas à vous de vous élever. Laissez le Seigneur vous élever. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, donc il m'est dit, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas observateur. Tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Est-ce que c'est le prédicateur qui peut sauver et perdre? C'est le Seigneur. Hein? Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Voilà la première partie. Alors, nous revenons encore sur quelques-uns de ces versets. Vous avez bien compris que les luttes et les querelles, ça vient de la chair. C'est dans le catalogue des œuvres de la chair. Il faudrait voir Galates, chapitre 5, n'est-ce pas? Les querelles, les disputes sont dans les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Oui, il y a des passions dans nos membres. Nous avons des membres. Et si je garde, moi, la disponibilité de mes membres, c'est avec quoi que je pêche? C'est avec mes membres. Je pêche avec mes mains, je pêche avec mes yeux, je pêche avec mes oreilles, j'écoute des choses que je ne devrais pas écouter, je regarde des choses que je ne devrais pas regarder, parce qu'il y en a qui nous disent on peut tout regarder, ça ne nous fait absolument rien. Moi, ça ne souffre pas de regarder quelque chose de pornographique. Mais non, non, non. On peut tout voir, on peut tout lire, on peut tout entendre, et on reste des saints. Les saints des derniers jours. Drôle de saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est soulié se souille encore. C'est pas vrai pour rester un saint. Tu peux pas être mis dans un tonneau de suie et sortir tout blanc. Et peut-être que vous, vous pouvez. En tout cas pas moi. Je peux pas me plonger dans un tonneau de farine et puis être noir. Mais je serai tout enfariné. Ce qui ne vaut pas beaucoup mieux que la scie. Alors, comprenez, on est imprégné de cette atmosphère que l'on respire. Vous allez dans les discothèques, vous pensez que vous pouvez laisser vos enfants aussi aller dans les discothèques, tout ça.
On peut tout laisser faire. Oh, mais ils seront gardés.
Si nos membres, nous ne les livrons pas au Seigneur, c'est ça. Livrez vos corps au Seigneur. Parce qu'avant, j'employais mes membres pour le péché. Maintenant, je dis, Seigneur, si je garde mes membres, c'est très bien ce que j'en ferai. Mais maintenant, prends mes mains. Et alors, mes mains peuvent être utilisées par le Seigneur. Mes yeux peuvent être utilisés par le Seigneur. Les oreilles peuvent être utilisées par le Seigneur. En vue du prochain, le Seigneur, quand il a voulu se manifester sur la terre, il avait besoin d'un corps. Et ce corps, il a été formé dans le sein de Marie. Et il a eu des yeux qui ont regardé. Et quand on regardait les yeux de Jésus, on voyait le regard du Père. Et quand on entendait les paroles de Jésus, on entendait les paroles du Père. Et c'est le Père qui maniait sa langue. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Mais il ne faisait rien non plus qu'il n'avait vu faire par le Père. C'est quelque chose de merveilleux. La dépendance du Fils de Dieu. Mais l'apôtre Pierre, tout à fait d'accord avec Jacques, nous dit que les convoitises, elles font la guerre à l'âme. Il y a la guerre dans nos cœurs, souvent. Il y a la guerre dans nos âmes. Il faut d'abord qu'il y ait la paix dans nos âmes. Parce que sans cela, nous ne sommes pas heureux. Nous sommes divisés. Parce qu'il y a des convoitises et qui se combattent elles-mêmes. Notre cœur est souvent un champ de bataille. Hein. Parce que nous sommes cupides, nous aimons l'argent. Mais en même temps, peut-être que nous avons des convoitises charnelles, mais il faut payer pour ça. Alors, voilà, il y a un combat entre la cupidité et l'impureté, ou autre chose. Ça se combat, qu'est-ce que je ferai? Les convoitises me troublent. Alors que quand le Seigneur vient, eh bien, il dissipe tout cela. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors, on est frustré. Vous êtes meurtrier. Là, il ne faudrait pas croire qu'on a tué. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et c'est là que je vous dis que vous pouvez voir le sermon sur la montagne. Celui qui n'aime pas son frère, il est un meurtrier. Ce n'est pas nécessaire d'avoir planté un poignard dans le dos de quelqu'un pour être un meurtrier, mais nous, quand nous avons des pensées de haine contre quelqu'un, nous sommes meurtriers. Et puis, on est peut-être envieux et on ne peut pas obtenir. On en vise qu'ont les autres. Alors que nous devrions dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quand Abraham était visité par Dieu, puis que Dieu lui disait, tu sais Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Qu'est-ce qu'Abraham disait? Quelle réponse est-ce qu'il faisait à Dieu? Dieu lui dit, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Immédiatement, Abraham dit, que me donneras-tu? Hein? On est intéressé. Mais et qu'est-ce que tu me donneras? Dans un entretien. Que me donneras-tu? Puis Dieu continue de lui parler. Alors, ayons affaire avec Dieu. Et nous saurons ce que c'est que posséder. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Pourquoi souvent nous ne possédons pas? Parce que nous ne demandons même pas, nous voulons acquérir les choses sans les demander à Dieu. Alors on ne les a pas. Puis quand on demande, finalement, quand on se met peut-être à prier, parce qu'il y a des gens qui prient, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et on demande mal, d'abord, quand on veut satisfaire nos passions, nos convoitises. Au Seigneur, je te demande seulement ça pour aujourd'hui. Hein. Que tu me donnes encore ça aujourd'hui. Que je puisse avoir cette jouissance. Il y a si longtemps que je voudrais ça. Au moins, donne-moi aujourd'hui. Je te promets qu'après, je te demanderai plus cela. Mais donne-moi au moins cela aujourd'hui. Non, chers amis. Le Seigneur ne vous le donnera pas. Vous demandez mal. Si c'est pour satisfaire vos passions, le Seigneur vous aime trop pour vous exaucer. Puis vous demandez mal, comment? Ben, si tu as dans ton cœur de l'animosité contre quelqu'un, ou que tu n'as pas pardonné dans ton cœur, c'est Jésus qui le dit, ne pensez pas que moi je vous exaucerai. Vous demandez mal. Commencez par vous mettre en règle, commencez par pardonner.
adultère que vous êtes. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'adultère? C'est l'infidélité. On dit qu'on est à Dieu, on dit qu'on a la foi, et puis, puisque nous, nous aimons le monde, le système du monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et qu'est-ce qu'il emploie pour assujettir les âmes? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est en flattant nos convoitises que le diable établit sa puissance sur nous et qu'il nous possède, tandis que le Seigneur nous libère. Alors, là, il est question de l'adultère spirituel. Le Seigneur ne partage pas. Si vous aimez le monde, eh bien, allez dans le monde. Si vous voulez suivre Baal, courez après lui. Mais si vous voulez suivre le Seigneur et être dans la vie abondante, eh bien, faites du Seigneur votre amour. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il n'y a pas de miracle. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Un homme qui aime vraiment sa femme, eh bien, il est quand même, il y a une certaine jalousie que j'appellerai divine. Il n'est pas indifférent que sa femme court ailleurs. Ça lui fait de la peine, ça le brise. Si on aime, Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en vous. Nous sommes fiancés au Christ depuis que nous avons donné notre parole au Seigneur. Alors, quand le monde vient, nous disons, non, je suis fiancé. Le monde voudrait nous avoir. Je suis d'un autre monde. J'ai déjà dit oui à mon Seigneur et j'attends le jour des noces. Alors, je me prépare en vue de ces noces. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et c'est cette grâce excellente que je demande au Seigneur qu'il vous révèle dans cette journée. Et vous reprenez cela, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors on dit, oh ben Seigneur, est-ce que je suis humble, moi? Comment est-ce qu'on peut être humble? En donnant toute gloire à Dieu, oui. Mais voyez-vous, il y en a qui pensent que l'humilité, ça va descendre sur eux comme une colombe. Vous demandez d'être humble, il va vous humilier. Parce que l'humilité, on l'apprend par les humiliations. Tout à coup, on découvre quelque chose qui nous humilie. Alors, c'est bien le moment d'être humble. Tu dis, c'est vrai, ce que tu viens de me montrer, c'est vrai. Et c'est ça qui vous donne l'humilité. En s'abaissant. Oui. Et vous ne vous trompez jamais quand vous vous abaissez. Et je sais très bien quand l'Esprit ne parle pas en moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Eh bien, c'est pas que le Seigneur s'est éloigné de moi, mais c'est moi qui suis monté trop haut. Le Seigneur n'est jamais là-haut, puis moi au bas, puis je suis au fond de la vallée, puis je dis, il faut que j'arrive avec mes efforts jusqu'à lui. Mais le Seigneur dit, non, ta vision est fausse. C'est toi qui t'es élevé. Moi, je suis plus bas que toi. Je suis descendu jusqu'au plus profond de l'abîme, de sorte que c'est toi qui es trop haut. Jette-toi dans mes bras. Jette-toi dans mes bras. Faire le saut là dans lui. Au-dessous de vous sont les bras éternels, dit l'Écriture. Et vous connaissez la divine étreinte, vous ne tombez que dans ses bras. Abandonnez-vous au lieu de lutter de vous désespérément pour vous élever, pour arriver à ce qu'on appelle dans le monde un dépassement. C'est pas un dépassement qu'il vous faut, c'est un crucifiement. Il crucifie la chair, il ne fait pas que la chair soit dépassée et bien en vue. Soumettez-vous donc à Dieu. Dieu a parlé, et pour qu'on lui soit soumis. Et au diable qui est là, qui est une réalité, eh bien résistez-lui, parlez-lui comme à un vaincu. Il a été vaincu à la croix, le Seigneur a triomphé de toutes les puissances sataniques à la croix, de sorte que vous pouvez lui résister. Et si vous lui résistez, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, aimez sa compagnie, aimez sa présence, alors il s'approchera de vous et ce sera un tête-à-tête merveilleux. Nettoyez vos mains pécheurs, je sais que je peux pécher avec mes mains, purifie mes mains, elles sont sales. purifie mon cœur, il est si souvent partagé. Je veux être un homme résolu et non pas un irrésolu. Je veux sentir ma misère, j'ai besoin de me repentir. Et au fond, la mort à soi-même, c'est la repentance continue. On se repent au début, à la conversion, mais ensuite, on vit dans cet esprit de repentance. On ne laisse rien passer, c'est ça, s'appliquer la mort à soi-même. Je suis mort dans la pratique par la puissance du Saint-Esprit. Ne parlez point mal les uns des autres, frères, ça c'est le péché de la langue. Voyons plutôt ce qu'on peut dire de bien de quelqu'un. Celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu es un juge. Et ce qui compte pour nous, c'est que, recueillis devant sa parole, nous la mettions en pratique. Un seul est législateur et juge, c'est sa parole qui nous jugera, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu pour juger ton prochain? Et c'est ça qui est très grave. On est plein d'esprit de jugement. Jésus, lui, il disait qu'il ne jugeait pas. Et nous, quand nous jugeons, il nous manque toujours un élément de connaissance. Parce que dès que nous commençons à écouter quelqu'un, même si on a pu juger cette personne selon les apparences, on se dit, pardonne-moi Seigneur, parce que si j'avais dû passer par où cette personne a passé, j'aurais fait pire qu'elle. Voilà ce qui nous vient à l'esprit. Et on a une compréhension, on a une compassion. On ne passe pas sur le péché, on appelle le péché péché, mais on ne juge plus. Et on se dit, si je ne suis pas tombé dans cela, mais je m'étais bien capable et j'aurais fait pire que cela. Et je me souviens toujours, la première fois où j'ai parlé à des détenus dans une prison en Suisse, c'était des gens qui avaient tué. Pour pouvoir leur parler, j'ai dû leur dire, si le Seigneur m'avait laissé, eh bien, moi, je serai dans un lieu pire que celui où vous vous trouvez, parce que j'étais bien capable de faire pire que ce que vous avez fait. Se mettre plus bas qu'eux, puis alors après, on peut leur parler de l'amour de Dieu, et ils le reçoivent. Maintenant, on a encore quelques minutes pour la dernière partie, l'avertissement aux trafiquants et aux riches. Comme le soleil est là, peut-être qu'on va terminer, hein, pour que vous puissiez allez vous recréer, mais vous pouvez encore être 5 minutes sans qu'on ait besoin de faire une. C'est pas barbecue aujourd'hui, hein, parce que vous êtes tout à l'ombre. Bon, alors on peut y aller. Vous n'êtes pas trop chaud. À vous maintenant qui dites, il n'y a pas de problème, hein. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Alors on planifie, hein, planifie tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier, mais il y a une manière de planifier. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et c'est vrai, on ne connaît pas même le jour de notre mort, on ne sait pas ce qui arrivera demain, et on fait un tas de projets. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que vous avez déjà eu la vision de votre vie? Une vapeur qui paraît puis qui disparaît. Qu'est-ce que notre vie? Même vivre 80 ans, qu'est-ce que c'est? C'est peu comparé à l'éternité. Alors, souvenons-nous que nous avons peu de jours et que nous voulons glorifier le Seigneur. Et alors, faisons-le entrer dans notre existence. Il est notre vie éternelle. Ma vie n'est pas bornée au temps. Ma vie, je la vois sur le plan de l'éternité. Mais c'est le court temps que j'ai sur la terre qui fixe mon sort éternel. Mon sort éternel est fixé par l'œuvre de Christ, bien sûr, quant au salut. Mais quant à la lumière dont je resplendirai dans la gloire, c'est maintenant qu'elle se fixe. L'éclat de l'étoile, il est dit que dans la gloire, une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. L'éclat que vous aurez, l'intensité de la lumière que vous répandrez dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est maintenant qu'il se fixe. Dans la mesure où vous aimez le Seigneur, plus que le monde, eh bien, se fixe l'intensité de l'étoile. Et aussi votre capacité de contenir dans le ciel. Dans le ciel, eh bien, tous les vases seront remplis. On prend souvent cette image. Chacun de nous, nous sommes un vase. Et alors, on dit, oui, mais alors au ciel, il y aura des différences. Oui, il y aura des différences. Il y a, plus vous aurez pu contenir le Seigneur sur la terre, plus vous aurez eu à cœur qu'il ait toute la place, alors ça fait un grand vase. Et puis, si vous avez juste votre petit salut, juste être sauvé, vous avez compris cela, pour ne pas aller en enfer, et puis vous continuez de vivre au fond pour vous-même, pour vos intérêts, c'est toujours vous d'abord, eh bien, je ne dis pas que ce n'est pas sauvé, mais vous restez un petit vase. Et alors, dans le ciel, eh bien, tous les vases seront remplis. Plongés dans l'amour de Dieu, tous les vases seront remplis. Mais le petit vase qui est rempli, il ne pourra pas envier quelque chose au grand vase. Il ne peut pas contenir plus. Comprenez-vous? Il ne pourra pas contenir plus, c'est vrai. Alors, vous voulez que j'en mette plus? Misère. On comprend. On ne pourra pas contenir plus. Mais vous dites, moi, je suis pas ambitieux. Je me contente des 36 vases. C'est cela? Le Seigneur voudrait pouvoir vous remplir à pleine capacité, mais que vous continuez beaucoup. Parce qu'il est dit que le Seigneur sera admiré quand on reviendra sur la terre pour régner. Le Seigneur sera admiré en tous ceux qui auront cru. Alors vous ne voudriez pas qu'il y ait tout l'éclat de sa gloire en vous, au lieu que vous soyez un tout petit lumignon comme ça? Est-ce que nous ne serions pas ambitieux? Ce n'est pas pour nous, parce que ce n'est pas à nous qu'on admirera. On admirera l'œuvre que Dieu a faite en nous. Alors laissez-vous faire. Et si le Seigneur qui est ambitieux pour vous trouve bon de briser le vase par une épreuve pour le refaire plus grand, dites amen. Seigneur, ce que toi tu veux, c'est le meilleur parce que tu travailles pour l'éternité et j'ai compris cela. Alors nous voulons vivre dans cette dépendance. Vous devriez dire au contraire. Vous voyez qu'il y a une façon de parler, une façon d'être en relation avec Dieu. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans des pensées orgueilleuses. Voyez-vous, c'est tellement facile d'avoir des pensées orgueilleuses. C'est la deuxième fois qu'il est parlé des pensées. Il est parlé des pensées mauvaises dans le premier chapitre. Et puis maintenant, il est parlé des pensées orgueilleuses. Alors, nous voulons être débarrassé de ces pensées orgueilleuses, non seulement du péché en parole, mais du péché en pensée. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Vous êtes d'accord? L'Écriture parle-t-elle en vain? Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Et quand on se glorifie de quelque chose, bien vous pouvez être sûr qu'il y aura la chute après. C'est au moment où on s'est élevé que ça va le plus mal. Mais au moment où vous êtes par terre, justement, on ne peut plus vous y mettre, alors le Seigneur peut vous élever. Mais quand un homme s'élève lui-même, il y en a d'autres qui se chargeront de l'abaisser. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, voilà le péché qu'on appelle le péché par omission. On sait faire le bien. Alors on dit, mais moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis adultère, etc. On reconnaît peut-être péché en pensée, péché en parole, bien sûr, on n'est pas parfait. Et puis péché en action, parce que au fond, nos paroles sont le prolongement audible de nos pensées, nos actions sont le prolongement visible de nos pensées, mais ça ne suffit pas de voir seulement péché
en pensée, en parole, en action, il y a le péché par omission. Que de fois, ça j'étais convaincu, j'avais 18 ans, quand j'ai cru mourir, enfin, dans cette opération si grave, eh bien, sur la table d'opération, quand j'étais lié, j'ai pensé qu'à 18 ans, c'est long, et tout le bien que tu n'as pas pu faire, tu n'as pas su faire, il y avait tant d'occasions que tu as manquées. Et là, Satan essayait de m'écraser, puis tout à coup, j'ai entendu que j'étais sauvé par grâce. C'est pas en vertu de ce que j'avais fait ou de ce que je n'avais pas fait. Alors le Seigneur a triomphé et je me suis endormi dans la paix. Mais quand même, ça m'est resté. Si tu reviens à la vie, eh bien, tu vas demander à Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour ne pas manquer les vrais. Le péché par omission. Nous savons faire le bien. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Eh bien, Seigneur, donne-moi des dents ta main. Toi, tu allais de lieu en lieu, faisant lui dire. Eh bien, je veux essayer simplement de te laisser prendre possession de mon corps pour que tu te serves de moi pour ton travail jusqu'à ce que tu viennes. Alors, nous sommes gardés du péché par omission. Et je dirais une dernière chose, il y a encore un autre péché, le péché par manque de conviction, que vous trouvez dans le 14 des Corinthiens. Pour celui qui sait faire le bien, pour lui c'est péché, c'est le péché par omission. Mais si vous n'avez pas une conviction, eh bien vous péchez. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, est-il dit, est un péché. Alors, il faut que vous ayez une conviction intérieure, et cette conviction, c'est l'Esprit qui vous la donne. Père, nous voulons te demander que maintenant, tu continues de nous parler dans nos diverses occupations, quand nous serons dans le soleil, quand nous serons aussi dans cette merveilleuse nature et quand nous irons à Saint-Benoît-du-Lac, nous verrons peut-être des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués, que tu nous donnes un nouveau regard et que tu nous donnes de l'amour pour tous ceux que nous rencontrerons et que nous puissions nous conduire en authentiques disciples du Christ. Car nous savons qu'on nous regarde et que nous puissions aussi être prêts à écouter peut-être l'exhortation qu'un de ces pères pourrait nous envoyer, nous dire, et que nous puissions la recevoir parce que nous avons besoin d'être exhortés. Que ta grâce soit avec nous en Jésus-Christ. Amen.